Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Professeur Gilles Pialou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez le service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Est-ce que la France est en état d'alerte sanitaire ?
Oui, sur les critères qu'elle a fixés, vous savez que c'était sur l'incidence, par exemple. Donc,
oui.
Passé deux fois le seuil que l'État avait fixé, d'une part, et sur le fait que, mais c'est beaucoup plus modéré, qu'on a une petite augmentation sur le remplissage de l'hôpital. Oui, on est en alerte sanitaire. Alors, on est en alerte sanitaire, je le dis tout de suite, hein, je pense qu'on est dans une situation complètement différente de l'hiver dernier. On est dans une équation à trois inconnues, qui est, est-ce qu'on va pouvoir monter notre niveau de vaccination pour faire front à cette résurgence virale. Et on est aussi sur une circulation très importante des virus hivernaux qu'on n'avait quasiment pas vu en 2019. On y reviendra peut-être. Et puis, on est sur une tension de l'hôpital qui est revenue à celle qui était avant 2019. Ces trois éléments font qu'effectivement,
oui.
Il n'y a pas que la vague qui inquiète. Quoi.
Il n'y a pas que la vague. Comment allons-nous passer les fêtes de fin d'année? c'est difficile de faire des prévisions, mais
oui.
Que disiez-vous? Je me souviens.
J'étais fait allumer, j'avais dit que ça serait par Skype.
Oui.
Donc je pense que les gens ont appris. On a un taux de vaccination qui est une réussite quand même très très importante au niveau européen. Juste une anecdote. Lundi, j'ai été interviewé par la télé officielle autrichienne, et je pensais qu'ils allaient me faire parler de l'Autriche. Et en fait, ils faisaient une émission spéciale. Sur le sujet, c'est un élément positif, pourquoi la France est un exemple. Voilà, on est aussi parfois regardé à l'extérieur comme un exemple, je trouve que je voulais le préciser. Donc oui, à cause notamment de l'effet du pass sanitaire, du fait qu'on a quand même réussi à tamiser cette quatrième vague, mais c'est vrai que cette résurgence vaccinale, au moment où il y a une circulation virale, c'est très simple, il y a des messages très clairs, il va falloir revoir le capacitaire des fêtes de Noël, ça sera pas les fêtes de Noël de 2019. Alors voilà, je veux pas être mauvais oiseau de mauvais augure, les grands-parents d'un côté, non, on n'est pas dans cette situation-là. Mais il va falloir rentrer trois éléments. Un, il y a d'autres virus qui circulent. Deux, il va falloir se vacciner contre la grippe, parce que c'est pas fromage ou dessert, il faut se faire vacciner contre la grippe, ça n'a rien à voir avec la vaccination de la troisième dose, c'est deux éléments complètement différents, et bien sûr qu'il faut faire les deux. Et troisièmement, il faut pas oublier que la vaccination, même si ça amuse beaucoup les polémistes de certaines chaînes de télévision, ne diminue pas complètement le risque de transmission. Donc voilà.
La vaccination ne protège pas contre la contamination.
Non, alors après, on nous dit, mais c'est combien? On s'en fout de savoir c'est combien. Ça diminue le risque de transmission, mais ça ne l'annule pas.
Ça ne l'annule pas. En revanche, ça nous protège, la vaccination, des risques les plus graves. Je prends l'exemple de l'Allemagne, où la situation est grave. En Allemagne, rien à voir avec ce qui se passe chez nous. En Allemagne, les hôpitaux sont saturés. À Munich, par exemple, aucun vacciné en réanimation et une majorité de moins de 50 ans entre la vie et la mort. Des non-vaccinés de moins de 50 ans qui sont entre la vie et la mort.
Non, mais ça, c'est une certitude européenne. Il y a une corrélation directe entre le remplissage des hôpitaux, des réanimations et les décès, et le niveau de vaccination. Donc, vous pouvez prendre les chiffres dans tous les sens. Alors, évidemment, il y a autre chose. L'histoire de l'Allemagne, d'abord, ils sont en dessous de nous, hein. Ils sont autour de 67% de vaccination. En Saxe, ils sont à 54%. Donc, c'est quasiment un habitant sur deux. Et on sait très bien qu'il y a probablement un moment où l'effet protecteur apparaît clairement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on peut pas le fixer, mais à un niveau de taux de vaccination.
Au-delà, par exemple, de 75%.
Oui, alors.
On voit l'effet protecteur du vaccin.
Le contre-exemple, c'est
collectif.
Collectif. Le contre-exemple, c'est les Pays-Bas qui sont presque au même niveau que nous en taux de vaccination et qui ont aussi une résurgence importante. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On l'a vu avec l'Autriche, hein. C'est pas seulement leur taux de vaccination. C'est aussi une défiance très importante par rapport au vaccin qui est beaucoup plus importante que chez les Français. Et aussi un relâchement des mesures barrières qui est encore plus important que ce qu'on a observé en France. Donc c'est un ensemble qui explique la situation, mais effectivement c'est très préoccupant parce que l'Allemagne a été quand même montrée en exemple au niveau de son capacitaire, son niveau de réanimation, etc.
Les hôpitaux,
donc ça prouve que, excusez-moi, mais je me répète depuis longtemps, ça prouve que c'est la prévention combinée. Et franchement, je pense qu'il faut le redire, C'est exactement l'histoire de la sécurité routière. Alors, il paraît que maintenant, c'est devenu un spot de prévention. C'est qu'on ne pourra pas se passer des mesures barrières, de la vaccination, du pass sanitaire et du dépistage. Et là, sur le dépistage, en France, on a du chemin à faire parce qu'on a lâché le dépistage et c'est une erreur.
Alors, c'est une erreur. Alors, puisque vous parlez de dépistage, est-ce qu'il faut rendre à nouveau les tests gratuits ?
Mais moi, je pense qu'il faut mettre ça sur la table et que j'y suis favorable. J'y suis favorable, pourquoi ? Parce que, bien sûr que le test protège moins que le vaccin, mais c'est un outil de plus. C'est un outil
de plus. Pour
détecter plus tôt, pour isoler. Et oui. Puis, il y a quelque chose qu'on a appris de toutes les maladies transmissibles, du sida, des hépatites, c'est que quelqu'un qui se sait positif n'a pas le même comportement, c'est humain, n'a pas le même comportement, et il s'isole, il prend des mesures, etc., que quelqu'un qui est dans le doute. Et là, on va être dans une situation hivernale où les gens vont avoir plein de symptômes qui ressemblent à un Covid bénin et ils ne vont pas se faire dépister. Or, il faut augmenter le niveau de dépistage.
Donc, il faut revenir à la gratuité des tests.
Oui, et puis il y a une deuxième raison qu'a donnée Santé publique France dans son dernier bulletin, c'est que ça a allongé le délai entre le moment du début des symptômes et presque à 3 jours, et le test n'a jamais été aussi long. Donc non seulement on a perdu 24% de dépistage chez les asymptomatiques, c'est les données Santé publique France, mais en plus on a allongé. Donc là on n'est pas bon.
On revient à la gratuité des tests.
Ça c'est une décision politique. Moi je vous dis qu'en tant qu'infectiologue,
vous la demandez.
J'y suis favorable et l'Allemagne d'ailleurs y est revenue.
C'est vrai que l'Allemagne est revenue. Gilles Pialoux, parlons de la vaccination. La vaccination qui a fait baisser les hospitalisations des personnes les plus âgées et les plus fragiles. C'est incontestable.
C'est la vaccination dans le pass sanitaire.
Mais là dans aussi, le pass sanitaire.
Là aussi, les chiffres sont édifiants. Santé publique française a publié. Dans les EHPAD, c'est 96% de décroissance des décès pour la troisième vague.
Et grâce au vaccin. 96%
bien sûr que c'est le vaccin, plus les mesures barrières, plus etc. Mais c'est évidemment le vaccin qui tracte tout ça.
Oui. Les non-vaccinés, des bombes virales, dit Renaud Muselier. J'ai entendu ça hier matin. En fait, cette épidémie, c'est...
Il ne faut pas stigmatiser les non-vaccinés. Vous savez, l'histoire de l'Autriche, là, ils ont dit on va confiner les non-vaccinés.
Alors, qu'en pensez-vous?
Je pense que sur le plan médical, ça a un sens, puisque c'est effectivement les non-vaccinés qui remplissent les hôpitaux. Il faut être clair sur ça. Moi, j'ai 8 lits, j'ai 7 non-vaccinés. Donc,
8 lits aujourd'hui?
Oui, en permanence, c'est 6 ou 7 non-vaccinés. Mais c'est pas des anti-vax. C'est aussi des gens qu'on n'est pas allé chercher. C'est aussi des gens qui disaient, alors, des fois, les arguments sont complètement allumés. Mais c'est des arguments qui peuvent être rattrapés. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Alors, parfois, on tombe un peu sur la chaise, hein. Il y en a un qui m'a dit, je suis pas vacciné parce que dans mon milieu de travail, tout le monde est vacciné autour. Bon, après, voilà. Il y a des gens qui seront coincés, quoi. Je veux dire,
est-ce que vous êtes favorable à un confinement des personnes non vaccinées?
Mais ils le sont. Enfin, d'abord, tout ce qui est confinement passe mal. Vous l'avez compris.
Oui.
Donc, je pense qu'il y a des mesures. Il y a des mesures avant pour ça. Il faut aller chercher déjà les 1,5 million.
L'obligation est efficace.
Mais l'obligation vaccinale, on va l'élargir, c'est sûr. Mais enfin, ça, c'est si l'incidence continue à augmenter, il y a deux choses qu'on va élargir. Ce qu'on rentre dans le pass sanitaire. Je crois que le président de la République a un peu ouvert la porte à ça en parlant de la tranche en dessous de 65 ans. Donc les plus 50 ans, qui, à mon avis, vont un jour rentrer dans le pass sanitaire si ça continue, dans le pass sanitaire avec une troisième dose obligatoire. Et puis, effectivement, je pense qu'il faut élargir l'obligation vaccinale bien au-delà des soignants à des métiers qui sont en permanence avec le public.
Tout ça
pour échapper au confinement.
Public, la vaccination doit être obligatoire pour toutes celles et ceux qui sont...
Élargir l'obligation.
Élargir pour toutes celles et ceux qui sont en contact avec le public, c'est ce que vous dites.
Oui, enfin, je pense que c'est des mesures de bon sens pour éviter ce qui est insupportable pour les Français, qui jouent sur leur psychisme, qui est toutes les formes de confinement.
Et est-ce qu'un jour, tout le monde sera obligé de passer par la troisième dose, pour un rappel ?
Ben ça, c'est le d'abord, il faut comprendre quelque chose. Il y a vraiment un écart entre l'augmentation de l'incidence. Quand, par exemple, vous prenez entre le 1er et le 7 novembre, il y a eu plus 44% d'augmentation de l'incidence des nouveaux cas.
L'incidence des nouveaux cas, oui.
Mais quand vous regardez, il y avait plus 9% en hospitalisation et plus 10% en réanimation. Donc il y a vraiment un écart. Et cet écart est expliqué par la vaccination, indiscutablement.
C'est-à-dire qu'il y a plus de cas, mais heureusement, à peine plus d'hospitalisation.
Vous avez vu les chiffres d'hier, 19 900 nouveaux cas. Et en plus, dans un dépistage qui a été baissé par le sujet que vous disiez tout à l'heure, qui était le non-remboursement partiel. Donc effectivement, cette incidence, tant qu'elle sera écartée du poids de l'hospitalisation et de la réanimation, laissera une marge de manœuvre et permettra peut-être d'endiguer ce que vous appelez la cinquième vague.
Est-ce qu'un jour, nous devrons faire, un rappel tous les 6 mois?
Bah déjà, c'est bien de dire un rappel et pas la troisième dose.
Non, un rappel,
voilà, ce qui va fixer le rappel, c'est les variants aussi, hein, c'est la durée de l'immunité. Sur la durée de l'immunité, les choses sont pas très claires. On dit, ah oui, les experts disent des choses, parce que les choses changent. On sait quand même que globalement, il n'y a pas que les anticorps, il y a aussi les cellules, l'immunité cellulaire.
Je dis ça parce que l'efficacité du vaccin baisse au bout de 6 mois.
Ça dépend des populations. Évidemment, plus vous êtes âgé, plus ça baisse vite.
Plus on est âgé, plus ça baisse vite.
Mais on se fixe sur un indicateur qui sont les anticorps, parce que ça, c'est facile à chercher, il suffit d'une prise de sang.
Oui.
Par contre, on sait qu'il y a d'autres moyens de l'immunité, notamment l'immunité cellulaire, qui, elle, perdure. Donc, l'histoire de la troisième dose, c'est l'incidence qui va fixer.
Si j'ai eu le Covid depuis ma deuxième dose, est-ce que je dois faire un rappel?
Pour l'instant, c'est pas dans les recommandations.
C'est pas dans les recommandations, non. Et les enfants? Les enfants de 5 ans, comme aux États-Unis, ou en Autriche d'ailleurs. Parce que vous parliez de l'Autriche tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Alors les enfants, c'est un sujet tendu. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, il y a deux éléments. Un, c'est vrai que les États-Unis ont pris cette décision, l'Autriche, vous avez raison. D'abord, c'est pas les mêmes enfants, Israël, si je puis dire, l'Israël. Deuxièmement, c'est vrai qu'on manque de recul par rapport à la vaccination des moins de 12 ans. On manque de recul et d'acceptabilité. Ça, c'est un point important. Et puis, il y a un point qui est très important, c'est que je comprends, c'est que c'est pas aux moins de 12 ans à payer le retard vaccinal des adultes. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'esprit des
gens. Ce sont les adultes qui sont responsables.
Voilà.
Les premiers de la circulation vaccination.
Voilà. Et ça, ça a une part. Mais un jour, on y viendra peut-être. Mais je pense qu'on y viendra plus tard avec d'autres vagues et d'autres. Attendez. Oui. Juste un mot qui est important.
Oui. Allez-y.
C'est pas parce que on dit que c'est un peu trop tôt, clairement, pour la vaccination des moins de 12 ans, qu'il faut plaider la libre circulation, parce que j'ai entendu ça d'experts, y compris d'experts médicaux, c'est-à-dire qu'il faut laisser circuler le virus chez les enfants. Non, il ne faut pas laisser le virus, parce que c'est un mythe, l'immunité collective, on l'a compris, c'est un mythe avec ce variant Delta, y compris chez les enfants. Donc, il faut quand même avoir des niveaux de protection chez les enfants.
Et les enfants.
Des capteurs de CO2, des aérations, et pas lâcher
la
prévention.
Et le masque à l'école primaire, indispensable.
Le masque, on n'aurait jamais dû enlever. Alors, je sais que il y a un certain nombre de parents qui sont remontés contre le masque, mais il faut être remonté contre le Covid, il ne faut pas être remonté contre le masque.
Oui. Et le masque, généralement, à l'extérieur, c'est utile ou pas ?
Mais bien sûr que c'est utile. Vous savez, c'est une discussion sans fin, mais qu'on a depuis le début. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2019 sur les bronchiolites ? Qu'est-ce qui s'est passé sur les virus respiratoires de l'adulte ? Qu'est-ce qui s'est passé même sur la grippe ? Ben, il s'est passé que ces mesures, dont le masque, ont complètement limité les gastroentérites. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un masque, non seulement vous postillonnez pas, vous envoyez pas des excrétions, mais vous vous touchez pas le visage. Et on sait que c'est un mode de contamination important. Donc je redis ce qui a été dit d'ailleurs par Dominique Costaiguer hier soir sur cette antenne. C'est que effectivement ça sert aussi à protéger des agents infectieux qui sont là très présents cet hiver. Regardez la carte de France des bronchiolites. Non mais je veux dire on parle des enfants là. Mais regardez la carte de France des bronchiolites chez l'enfant, elle est rouge cette année. Il n'y avait pas de bronchiolite en 2020-2021.
Grâce au masque,
aux mesures barrières et à tout
même
ce qu'on a mis en
pour
place.
La grippe,
très clairement, il y a la vaccination. Je sais qu'il y a toujours une partie de la population qui le doute, mais les gens vont mettre dans leur tête, ah oui, on a déjà une troisième dose, donc on va pas en plus, mais ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je dis, c'est fromage et dessert. On a besoin des deux, et on a besoin d'écarter la question de la grippe du problème qu'on va aborder peut-être ensemble tout à l'heure, qui est le danger de saturation des hôpitaux avec une vague moins importante de Covid.
Avec une vague, malgré la moindre importance.
Oui, parce que l'hôpital est sous tension majeure.
Alors, avant de parler,
et les gens le découvrent.
Juste un mot, Gilles Pialoux, juste un mot sur cette pilule. J'ai vu que Pfizer demandait l'autorisation aux États-Unis de la mise sur marché de sa pilule anti-Covid. Vous y croyez, cette pilule anti-Covid?
Heureusement, si un clinicien ne croit pas au traitement
Non,
parce que celle de Merck, dans des données très préliminaires, oui. effectivement communiqué par le laboratoire. Donc il faut évidemment prendre un peu oui. de distance avec ça.
Oui.
Mais bon, 10 minutes, 50% le passage aux formes graves et au décès. Celle de, que vous citez de Pfizer, qui est intéressante aussi, c'est un peu plus. C'est même beaucoup plus. On attend effectivement, là, c'est oui. sur 700 personnes l'un, 370 l'autre.
L'avantage formidable, c'est que ça coûte beaucoup moins cher.
Comprimé.
Il va y avoir des génériques tout de suite. Ça va être génériqué tout de suite. Donc le monde entier va pouvoir avoir accès.
C'est une partie de la solution. Hein. C'est oui. une partie de la solution parce que c'est pour les formes précoces,
oui.
c'est pour les gens non hospitalisés. Et là, ça revient sur le sujet du dépistage. C'est une oui. erreur de ne pas mettre l'accent sur le dépistage. Parce que ces molécules-là, elles sont oui. comme le médicament contre la grippe. C'est dans les 3 ou 5 jours. C'est dans les 3 à 5 jours. Et si vous ne dépistez pas, par définition, vous n'aurez pas le traitement. Donc quand les Français vont comprendre ça, ils vont se dépister. Mais il faut les laisser se dépister. Vous comprenez ce que je dis ?
Bien sûr, bien sûr. Quelle est la situation chez vous à Thonon, de l'hôpital ?
Ben, la situation Covid, elle est contenue, au sens où on a 8 lits en permanence qui se renouvellent, c'est-à-dire un malade qui sort, il y en a qui rentre,
la réanimation pareil. 8 lits occupés,
voilà, alors,
réanimation même
les gens
chose.
Nous disent, mais 8 lits c'est rien, mais c'est 8 lits en plus de tout le reste, c'est-à-dire oui. qu'il faut pousser
occupé
les murs.
Occupé Covid.
Occupé Covid en médecine, enfin dans mon service, et 7 en réanimation, qui pareil, qui se renouvelle en permanence. On n'est pour l'instant pas obligé d'obliger de capacité.
Mais des patients plus jeunes.
Un peu plus jeune, effectivement. Alors plus jeune, beaucoup plus jeune que la première vague, mais comme je vous l'ai dit, il y a aussi des gens avec des comorbidités. Hein. On parle par exemple des personnes obèses. Les personnes obèses, on est entre, ça dépend des études, mais au moins 25% des personnes obèses n'ont même pas eu accès à une dose de vaccin. Donc on est même plus dans l'histoire de la troisième dose.
Ouais.
Mais l'attention est importante. Hein. Je veux dire, c'est une phrase que j'ai prononcée il y a quelques semaines. Les cellules de crise ont été remplacées par des cellules de gestion de la pénurie. De la pénurie de personnel, de la pénurie de la fermeture des lits. Et il y en a qui crisent. Hein. Pour reprendre le mot crise, c'est les urgentistes. Parce que les urgentistes, ils sont ouverts sur la ville. Et ils ne peuvent pas fermer le robinet comme nous, on peut fermer des lits.
Oui.
Donc là, je crois effectivement la tension est très forte.
Vous avez fermé des lits dans votre service ?
Alors j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait, ça fait 20 ans que je suis chef de service, j'ai fermé des lits ponctuellement. Ce qui est le pire. C'est-à-dire que fermer des lits définitivement, bah c'est simple, vous n'avez pas de personnel, vous fermez les lits. Alors on va pas discuter de savoir si c'est 20%, 18% en Île-de-France, ou 6%, de toute façon c'est trop. C'est trop dans un système qui est de toute façon à 100% d'occupation. En plus, je crois qu'en Île-de-France, on est plutôt à 18% de lits fermés, faute de personnel. On a fermé des lits par tranche de temps. C'est-à-dire, on s'est aperçu que, par exemple, sur 4 jours, on n'avait pas assez de personnel pour la sécurité des patients. Donc, on a transféré les patients, on a rouvert les lits quand on avait le personnel.
Oui, ça, c'est pas possible.
Pas continuer,
c'est intenable.
Pas continuer,
c'est intenable. Et le personnel, justement, est-il vrai que tant d'aides-soignantes, d'infirmières et de médecins préfèrent partir quitter l'hôpital et aller dans le privé ou ailleurs?
Alors hier, en partant du service, je suis allé discuter avec les infirmiers. J'ai dit, vous savez, je repasse chez Bourdin et qu'est-ce que vous diriez?
Oui.
Et j'ai vu un infirmier qui a de la bouteille et ça, et je pensais qu'il allait me dire salaire en premier. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit service public. Ouais. Ben, d'abord, ça m'a touché. Deux, ça correspond à une réalité. Je veux pas dire que les salaires, c'est pas important, parce qu'après, il a parlé salaire.
Oui.
Mais il a parlé service public. La plupart du corps, 40%, l'enquête du Conseil de l'Ordre des infirmiers, 40% souhaitent changer de métier. C'est très inquiétant, bien sûr, mais ça date pas du Covid. Ça date pas du Covid. Le Covid est venu aggraver une situation.
Ouais. Est-ce que vous avez remarqué que dans la campagne présidentielle, pour l'instant, on n'en parle pas ou trop peu?
Je fais tous les efforts que je peux, en privé, en public, et je suis pas le seul. Hein, on est plusieurs à intervenir sur ça, et vous avez entendu Karine Lacombe et d'autres. Il faut que ça soit au centre, et ça va être au centre. Regardez l'enquête sur l'opinion des Français, là, ce qui leur paraît important, là, qui vient de sortir.
Oui.
ELAB, je sais plus comment ça s'appelle l'enquête. ELAB, pardon. Premier sujet, la santé. Que ça soit individuel ou collectif, c'est la santé. Devant l'immigration, devant l'environnement, devant la sécurité. De quoi on a parlé jusqu'à maintenant ? De l'immigration, de la sécurité et un peu de l'environnement. Donc, je pense que les candidats vont comprendre
santé,
que l'hôpital...
pouvoir d'achat.
Parce que pourquoi l'hôpital public a tenu pendant le Covid ? Vous savez ça ? Pourquoi ? C'est pas un quiz. Un, parce que parce que d'abord, il y avait le sens du service public. Deux, parce que il y avait l'administration et les médecins qui étaient main dans la main. Ce qui est pas du tout la gouvernance habituelle à l'hôpital. Troisièmement, parce qu'il y avait le quoi qu'il en coûte, effectivement, du président de la République. Et puis, il y a une solidarité entre le privé et le public. et entre les régions.
Oui.
Ces cinq éléments, vous pensez pas que c'est une réflexion pour les politiques, pour comment on peut améliorer l'hôpital? Alors je sais qu'il y a des choses qui ont été faites. La fin du numerus clausus, le président l'a annoncé, mais ça c'est des effets à 5 ans. Nous là, on attend des effets à 3 mois.
Vous avez pensé quitter l'hôpital public?
Pas du tout.
Non, parce que
j'aurais pu prendre ma retraite déjà. Hein.
Oui.
Non, pas du tout, parce que je suis attaché à ça. Je trouve que c'est meilleur, c'est universitaire, c'est une façon de faire de la recherche, c'est une façon de.
Vous seriez mieux payé dans le privé.
Vous savez, j'ai même pas fait de consultation privée, alors je peux en faire depuis 20 ans. Donc voilà, ça c'est décidé. Moi, j'ai le sens du service public et de l'hôpital universitaire. Et je n'ai pas du tout envie de quitter pour l'instant. En tout cas, pas de quitter pendant cette guerre-là.
Merci beaucoup Gilles Pialou d'être venu nous voir ce matin. Comme toujours, c'était passionnant. Vous êtes sur RMC et sur BFM TV, 8h53.